Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter le carnet de correspondance sur CFM Radio, une émission qui s'intéresse aux questions en lien avec l'éducation nationale, la pédagogie, l'enseignement. Nous enregistrons cette émission le mercredi 8 novembre à la veille de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, donc c'est le jeudi 9 novembre où partout en France des actions sont menées contre ce fléau qui est malheureusement un peu trop d'actualité. On se remémore encore que durant cette rentrée scolaire 2023-2024, on a su encore de façon cruelle comment le harcèlement scolaire pouvait conduire à des actes répréhensibles jusqu'à pousser certains au suicide. Bien sûr, cela reste exceptionnel, des cas aussi graves que celui-là, mais d'après les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, ils sont encore environ 10% des élèves à subir ce harcèlement pendant leur scolarité. L'école aujourd'hui scolarise 12 millions d'élèves, cela représente donc plus d'un million d'élèves qui subissent le harcèlement. On mesure donc l'ampleur de ce phénomène. Et puis tous les parents aussi le savent, à côté du harcèlement scolaire dans l'école, on assiste aussi au développement du cyberharcèlement à l'extérieur de l'école. Des jeunes qui sont équipés de plus en plus tôt de téléphones portables, ils l'utilisent toujours plus sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, WhatsApp, TikTok et autres. Et c'est de tout cela dont on va parler dans ce numéro de carnet de correspondance, toujours en compagnie de Jean-Marc Robin, le principal du collège Valsero de Corte-sur-Ciel. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jacques.
Et puis avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Fouquet, qui est infirmière au collège de Corte-sur-Ciel et très engagée dans la prévention du harcèlement. Bonjour Madame
Bonjour,
Fouquet,
Jacques.
Merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Donc, on le rappelle que ce jeudi 9 novembre 2023, partout en France, c'est la journée nationale de prévention contre le harcèlement. Alors, Jean-Marc Robin, le ministère a décidé de mettre, un coup d'accélérateur sur la question du harcèlement scolaire un peu plus encore en cette année scolaire 2023-2024. Comment cela s'est traduit concrètement dans ce que l'on vous a demandé de mettre en place dans les établissements scolaires?
Alors d'abord, si tu veux bien, Jacques, on va rappeler que la France, en matière de prévention du harcèlement, se mobilise, l'école française, depuis une petite vingtaine d'années. Mais il faut bien être honnête, la France n'est pas le pays qui était à la pointe de la prévention du harcèlement, c'est plutôt nos amis scandinaves qui ont ouvert la voie à des travaux de recherche tout à fait importants. Alors pourquoi en France, on ne s'intéressait pas trop à la question du harcèlement scolaire? Parce qu'on avait une vision de la violence scolaire qui était finalement limitée, circonscrite au collège, au lycée des quartiers prioritaires, en se disant que finalement la violence était liée à la pauvreté, et point barre, et on n'en parlait plus. Et puis c'était traité de façon très ordinaire dans le cadre des punitions et des sanctions, avec l'idée que finalement c'était des chamailleries entre enfants, et qu'il ne fallait pas accorder plus d'importance que ça. Un auteur important, un chercheur important, qui s'appelle Éric Debarbieux, a été missionné par Luc Châtel, je crois que c'est dans les années 2010, Luc Châtel était ministre en 2008, il lui a demandé de faire le point sur cette question-là. Et là, on a fait un vrai point. Donc, on a fait ce qu'on appelle des enquêtes de victimation. C'est-à-dire qu'on a fait passer des questionnaires auprès des élèves en leur posant un nombre de questions pour savoir où est-ce qu'on en était. Et là, les bras nous sont tombés. Ouais. On s'est aperçu, justement, tu le disais tout à l'heure, que 10% des élèves, dans leur scolarité, pouvaient être victimes de harcèlement. Donc, c'est avec un chiffre monstrueux. Ça fait sur 12 millions d'élèves, tu le rappelais tout à l'heure, ça peut faire 1 million d'élèves. Donc là, carrément, c'est un phénomène de masse. Et donc, il a fallu mettre en place, je dirais, un plan d'action. Alors, ça a débuté un petit peu, comme on le fait toujours, par des expérimentations, notamment autour des travaux de Jean-Pierre Bellon à Clermont-Ferrand, ou bien à l'Académie de Versailles, qui a été un peu pionnière. Et puis, le ministère a décidé de se lancer dans un programme qu'il a appelé le programme phare, tout simplement pour prévention du harcèlement.
Donc, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant qu'il existe ce programme phare. Et il consiste en quoi exactement ce programme?
Alors, en fait, au départ, c'était les établissements qui pouvaient s'engager de façon volontaire dans ce programme. Et puis maintenant, le ministre a décidé qu'à la rentrée, à partir de cette rentrée, tout le monde y passerait.
Donc, obligatoire.
C'est obligatoire, ouais. On n'a pas le choix. Et donc, concrètement, c'est un véritable plan d'action. Je veux dire, c'est un plan de lutte contre le harcèlement scolaire. En fonction du niveau d'engagement des habitants scolaires, tu vas être à un niveau, soit « je m'engage », soit déjà, tu as déjà commencé, tu as un niveau approfondissement, soit l'établissement a développé une véritable expertise pour lutter contre le harcèlement scolaire. Alors concrètement, ce programme de prévention du harcèlement, il s'organise autour de plusieurs étapes. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est constituer une équipe ressource. Alors dans l'équipe ressource, nous on a la chance d'avoir Mme Madame Fouquet, qui est notre infirmière. Donc, on va avoir donc l'infirmière, le CPE, le chef d'établissement, des professeurs s'ils veulent se mobiliser, des centres d'éducation. Eux, leur objectif, ça va être d'abord, ils vont être formés pour ça. Ça va être de traiter les questions de harcèlement. Mmh. Alors, on reviendra sur la méthode qu'on appelle la méthode PICAS, qui va être développée. Après, ce qu'on va faire, et par exemple, ici, au Collège de Cordes, c'est Madame Fouquet qui va être notamment chargée de ça, ça va être de recruter des élèves volontaires. Alors, bon, le ministère les appelle des ambassadeurs de prévention du harcèlement. Nous, on les appellera sans doute les bienveillants au collège. Et là, ces élèves-là pourront être formés à médiation entre pairs ou bien justement à conduire des actions de sensibilisation de leurs camarades. Alors après, à eux de faire preuve de créativité. Ces élèves-là, c'est un peu des vigies. Ils vont scruter. Ce sont des élèves qui vont être aussi en renfort des victimes pour pouvoir les soutenir.
Les soutenir aussi,
ça, c'est très important. Parce que souvent, les victimes de harcèlement se sentent seules. Et donc là, ça va être très important que des pères soutiennent les victimes. Et puis après, il y a un gros volet de formation des personnels éducatifs qui va être développé par le ministère. Enfin, ce que le ministère souhaite, c'est que les établissements prennent des initiatives en direction des parents d'élèves. Donc, organiser des réunions, distribuer des plaquettes, orienter vers les parents, vers des vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour signaler tout de suite qu'il y a un site que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Internet sans crainte, où on met à disposition des parents des petites vidéos de 2 minutes qui sont très très intéressantes et qui portent toujours le même message, c'est-à-dire qu'il faut en parler avant. Puisque le harcèlement, on l'a dit, c'est 1 chance sur 10 d'être harcelé, donc autant en parler avant, même si son enfant n'a pas été harcelé ou harceleur, pour pouvoir justement déminer les choses. Donc tu vois, il y a vraiment l'idée que l'établissement se mobilise, et puis tu l'as dit, il y a ce moment très fort, c'est chaque année, c'est au mois de novembre, donc là ce sera le 9 novembre, et il y a aussi l'organisation de concours. Alors cette année, c'est très spécifique, parce que le ministre a décidé, vraiment, on le disait, de donner un coup d'accélérateur, c'est-à-dire qu'on va administrer un questionnaire que j'ai amené. Alors, on ne peut pas le voir à la caméra.
Toujours pas.
Bon, alors je vais donner 2 questions, mais je ne vais pas le dévoiler, puisque tous les élèves devront le passer de la 6e. Ouais. Alors, l'école, alors évidemment, c'est adapté en fonction du niveau des élèves, on est d'accord. Donc là, j'ai sous les yeux le questionnaire collégien. Alors, par exemple, ton grille d'auto-évaluation, alors ça sera un questionnaire anonyme. Donc, les élèves le répondront de façon anonyme. Après, les questions seront traitées par l'établissement, par classe et par établissement. Alors, par exemple, première question. As-tu peur d'aller au collège à cause d'un ou plusieurs élèves? Après, on leur pose d'autres questions sur le cyberharcèlement, est-ce qu'ils connaissent le numéro de lutte contre le harcèlement 3018, etc., etc. Bon, je ne peux pas lire les questions parce que sinon ce serait...
Un certain nombre de questions pour vraiment voir comment chaque élève se positionne.
Alors ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'effectivement, si on veut, chaque établissement doit mettre en place un plan de prévention du harcèlement. Donc là, concrètement, le ministère nous donne un outil pour avoir des données fiables, pour pouvoir conduire un plan de prévention du harcèlement, et on peut imaginer que l'année prochaine, peut-être on fera de nouveau passer ce questionnaire qui permettra peut-être de voir s'il y a eu des évolutions positives ou pas. Donc vraiment, ce qu'on peut dire, c'est que il y a vraiment cette volonté depuis quelques années, c'est pas simplement le dernier ministre, mais de vraiment lutter contre le harcèlement et de toucher toute la communauté scolaire. Et d'enrôler aussi les élèves. Je te parle des élèves ambassadeurs, et puis on en reparlera sans doute les parents.
On va écouter un peu de musique avant de définir exactement ce que c'est que le harcèlement, parce que sous ce terme-là, finalement, se retrouvent pas mal de types de harcèlement, on va dire, différents, qui peuvent aussi prendre plusieurs formes. On l'a dit, ça ne se limite pas uniquement au sein des quatre murs du collège ou du lycée. Ça prend aussi une forme, on va dire, numérique un peu plus de nos jours avec les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc. On en parle après ce titre de Soprano qui s'intitule Fragile et qui parle du thème que l'on traite aujourd'hui dans le carnet de correspondance, le harcèlement en milieu scolaire.
Était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ces complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. des tutos pour du rimmel. Snapchat, Snapchat, dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émotis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle est insupportable et comme elle irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Tu me partages tes rêves et tes doutes. Que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe ce que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas qu'elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh.
Le titre, c'est Fragile, c'est Soprano sur CFM Radio dans Carnet de Correspondance. Un texte qui met bien en lumière le thème que l'on traite aujourd'hui dans ce numéro de Carnet de Correspondance, le harcèlement scolaire, pour lequel, ou en tout cas contre lequel, une journée nationale a désormais lieu en France. C'est le jeudi 9 novembre partout en France, dans tous les établissements scolaires. Ça existe certainement depuis que l'école est école, ce harcèlement scolaire. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un fléau qui évolue aussi avec son temps, en l'occurrence avec aussi les progrès, on va dire, technologiques. Monsieur Robin, comment est-ce qu'on définit le harcèlement scolaire qui peut prendre d'ailleurs plusieurs formes, même au sein d'un établissement?
Alors bien sûr, les établissements scolaires ne sont pas touchés que par le harcèlement scolaire. Il y a aussi d'autres formes de micro-violence. Mais si on veut définir le harcèlement scolaire, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la répétition. C'est-à-dire que c'est des brimades, des insultes, des moqueries, des coups... être exclu du groupe aussi quand on, voilà, personne ne veut travailler avec un camarade, c'est vraiment cette répétition, la durée. Après, ce qui caractérise le harcèlement, c'est une situation d'emprise. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une situation de rapport de force inégal avec parfois le groupe ou un individu qui a des atouts et qui prend le dessus. Il y a une forme d'emprise, on pourrait même dire une forme de domination. Mmh. Et ce qui caractérise aussi la situation de harcèlement, Soprano, on écoutait cette très jolie chanson tout à l'heure, c'est la peur. C'est-à-dire que l'élève vit dans la peur, il vit dans la souffrance, et il y a une asymétrie dans la relation, il y en a un qui est sous l'emprise et qui va être envahi et qui va après, par exemple, s'interdire d'aller au collège ou qui va développer, on en parlera avec Marie-Laure, ce nombre de signaux cliniques. Mmh. Et puis, il y a, alors, tout à l'heure, on en parlera, puisqu'il y a une grosse discussion entre les chercheurs, il y a un rôle important, celui des spectateurs, qui peuvent jouer un rôle plus ou moins passif dans les situations de harcèlement. Sinon, après, le harcèlement, ce qu'on sait, à partir des travaux de recherche, c'est qu'il peut être soit direct, par exemple, je t'insulte, je donne un coup, voilà, je me moque de toi en direct, ou indirect, et là, tu le disais tout à l'heure, avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu garçon-fille, quoi. Les garçons, c'est plutôt en direct, et les filles, ça peut être plutôt des rumeurs, les réseaux sociaux. Sinon, après, pour résumer, le harcèlement, tu as le harcèlement physique, c'est des coups. Le harcèlement verbal, des insultes, des moqueries. Le harcèlement moral, alors ça c'est particulièrement dur pour les adolescents et les jeunes, c'est la mise à l'écart. Mmh. Tu vois, personne ne te parle dans la cour, personne ne veut travailler avec toi lors d'un travail de groupe. Après, le harcèlement à caractère sexuel, ça peut arriver, des baisers forcés, et des remarques, etc. Et puis bien sûr, le cyberharcèlement avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être des images, ça peut être des insultes, etc. Voilà. pour définir
un peu les différentes
voilà,
formes.
Ce qui est important, c'est de bien comprendre la répétition, la durée. Mm-hmm. Parce que bon, une insulte, ça ne fait pas le harcèlement non plus.
Hein. Mm-hmm. Donc il faut vraiment observer aussi les comportements de certains élèves. Mais le plus difficile aussi, c'est de pouvoir identifier des élèves qui souffrent de harcèlement. Et là, je me tourne vers vous, Madame Fouquet, infirmière au collège Valcerou de Cordes-sur-Ciel. Soprano nous le disait dans sa chanson que la communication est très importante. Et déjà, il faut pouvoir communiquer peut-être avec un élève qui ne parle pas, qui ne veut pas forcément s'ouvrir. Comment est-ce qu'on fait pour les repérer à ces élèves-là?
Alors c'est difficile, hein. Il faut observer, il faut être présent. Il faut vraiment que les adultes soient présents au niveau des espaces où sont les élèves. Mmh. Et puis être dans cette vigilance permanente pour porter le regard sur le jeune. Parce que ce harcèlement va engendrer un grand, grand déséquilibre émotionnel avec une baisse de l'estime de soi, une estime de soi très dégradée. Donc ces enfants vont être vraiment touchés. L'élève qui subit du harcèlement est un élève qui va avoir peur, qui est triste, qui peut changer de comportement et faire preuve même quelquefois d'actes de violence envers les autres et envers lui-même. Ça peut être des gestes tournés vers lui-même sous forme d'atteinte, de scarification et de coups portés. Hein,
ça alerte tout de suite quand vous constatez ça.
Ça alerte tout de suite, oui. Il peut y avoir des élèves en situation un peu compliquée, hein, de l'ordre des situations... sur des situations qui peuvent être d'autres origines que le harcèlement. Mais c'est vrai que ces comportements peuvent nous alerter. Il peut y avoir aussi des signes de somatisation, le mal de ventre, le mal de tête, la fatigue, les troubles du sommeil, enfin toutes ces raisons qui sont évoquées et qui peuvent l'empêcher de venir au collège, hein, puisqu'on est dans le cadre du harcèlement scolaire. C'est vrai que on se retrouve avec des élèves qui ont des difficultés à venir parce qu'ils ont peur.
Ils ont peur et
ils peuvent développer cette phobie scolaire. Des signes d'isolement dans la cour, d'isolement sur les moments de repas, d'isolement sur les moments où ils pourraient être à des moments intégrés à des groupes et où ils se retrouvent très seuls. Cette solitude, elle est... c'est vrai qu'on peut avoir aussi la baisse des résultats scolaires. Tout ça, ce sont des indicateurs pour nous, hein, les difficultés comportementales. Les résultats dans le cadre des apprentissages scolaires, tout ça, ce sont pour nous les indicateurs qui vont nous amener à se questionner autour de ce jeune qui peut ne pas aller bien. Et puis c'est ce regard croisé des adultes présents tout autour, parce que cet élève il va être dans une collectivité, donc il faut que tous les membres de la collectivité, hein, que ce soit les agents de restauration scolaire, les professeurs, les surveillants, le personnel de vie scolaire. Il faut que tous les regards soient croisés sur ce jeune de façon à pouvoir justement permettre de repérer le jeune en souffrance.
Repérer
le jeune en souffrance. On ne peut pas travailler seul dans le cadre du harcèlement. Et puis, on est sur l'établissement. On a un travail d'équipe, il me semble, de bonne qualité. On fait en sorte vraiment que l'accueil soit bienveillant et qu'on puisse avoir ses regards.
On va revenir dessus d'ailleurs sur le rôle aussi que chacun peut apporter et jouer par rapport à cela. Mais j'aimerais savoir, même s'il est difficile peut-être de tirer des grandes généralités par rapport à un fléau qui touche tous les établissements dans le monde, mais est-ce qu'on peut parler d'un profil type d'élève, alors soit harceleur, soit harcelé?
Alors en fait, cette question-là, elle est beaucoup débattue par les chercheurs. Et en fait, tu as deux courants de pensée. Tu as les courants de pensée qui est plutôt proche qu'on pensait anglo-saxon, tu sais, eux, ils aiment bien faire du profilage, mettre l'accent sur la responsabilité individuelle, et ils considèrent que le harcèlement, c'est souvent des personnalités pathologiques, asociales, tu vois, un petit peu comme des serial killers, en fait, ils sont un peu dans cette idée-là, avec cette idée qu'il y aurait des pervers narcissiques, qu'il y aurait des enfants qui aimeraient faire mal et qui aimeraient blesser les autres. Donc ça, c'est une façon d'aborder le sujet, hein, d'identifier les élèves qui vont pas bien et qui ont ces personnalités qui posent problème. Et puis il y a ceux, derrière les travaux de Picasso, qui considère qu'en fait, le harcèlement se développe dans un phénomène de groupe. Donc ça veut dire concrètement que n'importe qui peut être harceleur ou harcelé. Si tu veux, c'est plus une dynamique de groupe. Il n'y a pas des enfants qui sont prédisposés à être harcelés. C'est pas parce que t'es roux, t'as un gros nez, que tu, je sais pas, que t'es un peu gros, que tu vas être forcément harcelé. Il n'y a pas de profil, voilà. C'est-à-dire que ça peut être aussi des élèves qui ont de très bons résultats, qui sont harceleurs. Il n'y a pas de profil véritablement. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, une petite guéguerre entre chercheurs. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est que... Ben moi, je me base, et Marie-Laure pourra compléter aussi. Hein, c'est si on se base sur notre expérience à nous, ben on pourrait dire que le plus souvent, c'est les phénomènes de groupe quand même. Hein, mm-hmm. hein, c'est-à-dire, c'est plutôt des phénomènes de groupe. C'est-à-dire, n'importe qui peut être harceleur et harcelé. Mm-hmm. Hein, tu vois, il ne faut pas partir du point de vue, tiens... Mon enfant, bah, il n'a pas une grosse personnalité et par conséquent, c'est tout de suite une victime. Ce n'est pas forcément ça le cas. Donc, si tu veux, pour traduire cette différence d'approche, en fait, les anglo-saxons utilisent des termes différents. Alors, le courant qui met l'accent sur la responsabilité individuelle parlera plutôt de school bullying, hein, c'est-à-dire les bullies, ce sont des petits voyous qui embêtent les autres, hein, pour faire simple. Et puis, le courant derrière Anatole Picasso mettra plutôt l'accent sur la phénomène de groupe et parlera plutôt de mobbing. Le mobbing, ça signifie en anglais la foule, et ça signifie aussi assaillir. Donc tu vois, donc concrètement, deux explications du harcèlement, soit un phénomène individuel lié à des personnalités pathologiques, ou qui ont eu un problème de développement et d'éducation, soit des phénomènes de groupe, il y a des dynamiques de groupe qui peuvent échapper. Et c'est vrai que moi, ce que je constate comme chef d'établissement, c'est que parfois, on a des parents qui, quand on révèle des situations de harcèlement, oui. tombent des nues en disant « Mais mon enfant, je le connais, il est formidable, il est bienveillant avec ses copains. » Mais oui, mais là, ce qui change, c'est qu'il est dans une dynamique de groupe que lui, peut-être, n'a pas forcément envie d'être harcelé. Il a peur que ce soit peut-être lui-même la prochaine victime.
Ça peut être une mesure de protection.
Exactement.
D'ailleurs, souvent, ça révèle quelque chose par rapport aux élèves qui sont des harceleurs. Ouais. Ça révèle aussi quelque chose, peut-être un mal profond qu'eux aussi,
eux aussi vivent. Quelque chose qu'ils peuvent avoir subi. Mm-hmm. Parce qu'on sait qu'on peut le retrouver sur des jeunes harceleurs qui sont des anciens harcelés, je dirais, et qui ont trouvé dans cette façon de devenir harceleur une forme de guérison.
C'est-à-dire que tout à l'heure, Soprano parlait de la peur, mais il a absolument raison. C'est-à-dire que vraiment, ce qui caractérise le harcèlement, c'est la peur. La victime a peur de dire pour ne pas souffrir davantage. Ceux qui sont spectateurs et qui peuvent participer au harcèlement, ils ont peur de dire parce que ça sera peut-être eux la prochaine victime. Le harceleur, s'il y a un phénomène de leadership, lui, il peut avoir peur de perdre l'emprise sur le groupe. S'il ne continue pas d'harceler, il va perdre sa réputation, il va perdre son influence par rapport aux autres ou son charisme. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ce qui signifie qu'en fait, et ça c'est des travaux de Picasso, Anatole Picasso, lui il nous explique, on en reparlera tout à l'heure, qu'en fait tout le monde a intérêt à sortir du harcèlement. Mmh. À la fois le harcelé, bien entendu, et on le comprend, mais y compris le harceleur, parce que parfois, il ne peut pas en sortir.
Il ne peut pas en sortir, c'est presque un rôle parfois.
Il est pris dans une dynamique de groupe, et il ne sait pas comment en sortir. D'où l'importance que les adultes interviennent pour faire sortir, réindividualiser, c'est ce que dit Jean-Pierre Bellon, c'est-à-dire arriver à s'émanciper du groupe et à reprendre une posture qu'on n'aurait pas eue. C'est-à-dire que, là je lisais une étude de cas dans le bouquin de Bellon, là, qui est très très bon, et il expliquait un témoignage qu'il avait recueilli d'un élève qui harcelait, parce que c'était une bande de copains dans le car, une camarade, et puis une fois que les camarades étaient déposés, tu vois, donc il finissait le trajet avec elle, il était charmant, il était bienveillant.
C'était bon après.
Voilà. Donc on voit bien la dynamique de groupe, comment quelqu'un peut se transformer de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi, en quelque sorte.
Mais tiens, par rapport à cette dynamique de groupe, on va écouter tout de suite une chanson composée par une jeune, au sortir de son lycée. Elle a mis en écrit un peu ce qu'elle a vécu et subi dans son lycée. Et c'est Calogero qui s'est occupé de la musique sur ce titre qui est l'effet de masse. Donc on voit bien le lien avec la dynamique de groupe dont tu nous parlais, Jean-Marc. Marc Robin, et cet artiste s'appelle Maël.
Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. ce qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était à l'écart et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu.
Elle s'appelle Maëlle. Le titre, c'est L'effet de masse, une chanson hein, pour dénoncer le harcèlement scolaire, hein, un sujet dont on parle aujourd'hui dans Carnet de correspondance, hein, un sujet vraiment d'actualité. Hein, pour, je vous rappelle hein, que le jeudi 9 novembre, c'est la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Et Jean-Marc Robin, le principal du collège Valseyrou de Corte-sur-Sel, qui est avec nous, nous l'a rappelé. C'est vraiment une cause qui est vraiment prise à très au sérieux hein, par l'Éducation nationale de nos jours, même si, comme on l'a rappelé dans cette émission, hein, depuis plus de 5 ans maintenant, il y a un programme qui a été mis en place et qui est un peu plus concret aujourd'hui dans tous les établissements scolaires pour lutter vraiment contre ce phénomène-là. Madame Fouquet, l'infirmière de Corte-sur-Sel, nous a aussi rappelé un peu quels pouvaient être les signaux hein, pour pouvoir détecter des élèves qui subissent le harcèlement scolaire, et des signaux qui sont non seulement détectés par le corps professoral, par les pères des élèves aussi au sein de l'établissement scolaire, mais il y a aussi des signaux hein, qui relèvent plutôt de l'ordre des parents. Voilà, il faut aussi associer les parents pour lutter contre ce fléau-là, qu'on soit élève harcelé ou élève harceleur, là aussi les parents peuvent jouer un rôle. Alors ce que je vous propose, parce que c'est un sujet qui mérite qu'on y apporte toute l'attention nécessaire, hein, de nous retrouver la semaine prochaine sur CFM Radio. Et si aujourd'hui on peut considérer qu'on a surtout posé des bases théoriques par rapport à ce fléau du harcèlement scolaire, la semaine prochaine on se retrouve cette fois-ci pour parler plutôt des solutions, des postures à adopter aussi que ce soit face aux élèves, mais en tant que par exemple parent ou adulte, lorsqu'on est vis-à-vis avec un élève qui est soit harceleur, soit harcelé. Merci beaucoup à tous les deux, hein, Jean-Marc Robin et Madame Fouquet du collège de Corte-sur-Sel d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler du harcèlement scolaire. C'était Carnet de correspondance sur CFM Radio. Merci de rester fidèles à nos programmes.